Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 1er juillet, quand la justice ordonne une perquisition au ministère de la Justice, c'est en ce moment. Éric Dupond-Moretti fait l'objet d'une enquête pour des soupçons de conflit d'intérêts. La vaccination obligatoire pour les soignants, le gouvernement consulte. Il y a urgence, d'autant que les cas de Covid recommencent à augmenter en Europe après 10 semaines de recul. 28 jours de congé paternité à partir d'aujourd'hui pour les nouveaux papas, histoire de mieux tisser un lien avec le bébé et de rééquilibrer les tâches au sein du couple. Mais les hommes vont-ils vraiment en profiter ? Dans RTL Midi aussi, le bonus écologique un peu moins généreux pour les voitures électriques, plus de prime à la conversion pour les véhicules diesel. Dans ces conditions, comment bien choisir sa future voiture ? Pas si simple. Mbappé ne jouera pas les prolongations au PSG, il restera à Paris jusqu'en juin 2022 et puis c'est tout. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Dites-moi, on se croirait presque en été.
Oui, alors c'est sûr que par rapport à hier et aux jours précédents, oui, c'est bien plus lumineux au nord. Globalement, c'est un ciel variable entre nuages et éclaircies. Un petit peu plus de nuages, c'est vrai, sur l'extrême nord. Reste, ça reste beau dans le sud, avec un peu de vent entre Corse et continent, et puis une petite averse localement orageuse possible sur le relief des Pyrénées. Tout ça sous des températures en hausse, et ça fait du bien, comprises entre 19 au Havre et 32 à Nîmes, 23 à Paris, Dijon, Alençon et 29 à Toulouse.
La question du jour sur RTL.fr à propos du congé paternité, donc rallongé. Est-ce une avancée suffisante ? Vous êtes 73% à nous dire oui, il y a 12% de non. Vous allez en parler, Pascal Pro, 3210 avec les auditeurs. Bonjour.
Ça sera pas sinon, c'est assez récent, ouais. Hein, le congé paternité. Ça date de 93 en Norvège, le premier pays européen. Faut-il interdire les drapeaux étrangers et les danses traditionnelles lors des mariages civils ? Voilà une question intéressante sur le vivre ensemble. Nous pourrons également poser cette question récurrente. D'ailleurs, faut-il rendre obligatoire la vaccination des soignants et peut-être pour les 25-59 ans ? En tout cas, ça peut être une tendance. On pourra également évoquer Kylian Mbappé. À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Quand des magistrats ordonnent une perquisition chez le premier d'entre eux, c'est rarissime. Et pourtant, c'est ce qui se passe en ce moment au ministère de la Justice. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, fait l'objet d'une enquête de la part de la Cour de justice de la République pour des soupçons de conflit d'intérêts. Cindy Hubert, vous êtes place Vendôme pour RTL et c'est l'ancien avocat qui est dans le viseur.
Oui, aucun mouvement devant les dorures du ministère, mais à l'intérieur, pour la première fois de l'histoire de la CJR, des gendarmes sont en train de fouiller et de saisir ordinateurs, documents, tout ce qui pourrait permettre de répondre à cette question. Le ministre a-t-il eu une influence sur les dossiers qu'il a eu à traiter en tant qu'avocat ? Deux cas intéressent particulièrement les juges. Le premier, c'est celui des fadettes. Souvenez-vous, les relevés téléphoniques d'Éric Dupond-Moretti avaient été récupérés par le parquet national financier. Tout cela dans le cadre d'une espèce d'enquête secrète en marge de l'affaire Bismuth, des méthodes de barbouze, s'était indigné le pénaliste. Et c'est ainsi qu'une fois devenu garde des Sceaux, il avait ordonné des enquêtes administratives. Le deuxième dossier a fini d'attiser la colère des syndicats. Éric Dupond-Moretti n'a pas supporté le discours d'un juge d'instruction à Monaco qui se plaignait de pression dans une enquête. Là encore, l'avocat était dans le dossier. Là encore, le ministre a demandé une enquête. Bref, un curieux mélange des genres ou un conflit d'intérêts. Le Premier ministre Jean Castex est déjà passé dans le bureau des juges il y a presque un mois. Ce sera donc sans doute bientôt au tour du garde des Sceaux. Éric Dupond-Moretti est serein sur son entourage. Il a toujours suivi les recommandations de ses services.
Cindy Hubert en direct de la place Vendôme. Pendant ce temps-là, l'autre grand ministre régalien du gouvernement, Gérald Darmanin, présentait à Bièvre dans l'Essonne une unité d'intervention inédite, la CRS 8, censée être déployable partout sur le territoire en un temps record pour intervenir sur des violences urbaines, Alice Moreno.
Oui, 200 hommes et femmes basés dans l'Essonne, ils partagent leurs locaux avec le RAID et sont déployables à tout moment dans un rayon de 300 km autour de Paris pour le moment. Une base aérienne toute proche permettra peut-être à terme un déploiement au-delà de ces 300 km, mais une réflexion se pose sur l'acheminement du matériel par le ciel. L'objectif, être prêt à quitter la base en seulement 15 minutes après le déclenchement. Il faut ensuite compter 2 heures de trajet maximum. Ils interviendront sur des terrains en proie à des violences urbaines, comme on en a vu à Dijon l'été dernier par exemple. Cette CRS ne restera sur place que quelques jours. Elle n'a pas vocation à s'installer dans une zone durablement.
Bon, elle est donc opérationnelle dès demain, mais déjà, elle est la cible de critiques.
Oui, pourquoi créer une nouvelle unité d'élite, une CRS spéciale, alors que des CRS existent déjà partout sur le territoire et peuvent basculer d'une zone à l'autre, venir en renfort en cas de besoin. Telle est la critique qui revient dans la bouche de syndicalistes policiers. Cette unité ne risque-t-elle pas de faire doublon, d'accaparer le budget et les moyens qui auraient pu être répartis à l'ensemble des compagnies ?
Doit faire plus et plus vite. Le Conseil d'État donne 9 mois à l'État pour prendre des mesures supplémentaires pour le climat afin d'atteindre l'objectif de baisse de 40% des gaz à effet de serre d'ici 2030. Il avait été saisi par la commune de Grande-Synthe dans le Nord qui s'estime menacée par la montée du niveau de la mer. C'est une décision inédite. La course contre la montre pour éviter un été indien et une 4e vague de Covid à l'automne. Il faut que le nombre de personnes vaccinées, de celles qui ont déjà eu le Covid, dépasse les 80% pour bénéficier d'une immunité collective. On en est loin. Le gouvernement consulte sur une vaccination obligatoire des soignants. Seuls 55% ont reçu au moins une dose. La décision pourrait être annoncée avant le mois de septembre. Mais il y a peut-être une autre façon de convaincre les soignants. C'est ce qu'a expliqué sur RTL ce matin le professeur Pité, infectiologue à Genève.
Je crois que les soignants se doivent, il est question de respect, de civisme, de solidarité, se doivent d'être vaccinés. Et je pense qu'on peut et qu'on doit s'aider à les convaincre. Maintenant, si malheureusement on n'arrive pas à les convaincre, il faudra à un moment donné demander, exiger cette vaccination, ou alors des tests, peut-être 3 fois par semaine, une très grosse contrainte.
Des tests 3 fois par semaine, le professeur Pité, qui était ce matin l'invité d'Alba Ventura. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète. Les cas de Covid ont recommencé à augmenter en Europe après 10 semaines de recul. D'autant que ce 1er juillet marque vraiment le coup d'envoi des vacances d'été. C'est le retour, par exemple, des croisières à Marseille. 2 paquebots sont attendus dimanche pour la première fois depuis 17 mois dans un cadre sanitaire très strict, Étienne Baudu.
Oui, alors tout d'abord, la jauge a été revue à la baisse. Seulement 70% de passagers à bord. Ensuite, par exemple, à leur arrivée, les paquebots seront accueillis, entre guillemets, par les marins-pompiers de Marseille, tests sur les eaux usées du navire et chiens renifleurs au moment du débarquement. Et le contre-amiral Patrick Ogier n'est pas là pour s'amuser.
Ça fait un dispositif qui est quand même très étanche. Si jamais j'arrivais à avoir des eaux usées positives sur un bateau de croisière, on interdit le débarquement et on leur dit qu'il y a le Covid à bord. Donc c'est assez simple.
Et les armateurs sont prévenus, d'où des mesures sanitaires drastiques avec un test antigénique avant d'embarquer. À bord, le port du masque en intérieur est obligatoire, tout comme les distanciations sociales à la piscine, au casino ou au spectacle, prise de température quotidienne et test à chaque retour d'excursion. Et justement, ces excursions en escale seront étroitement surveillées, pas question d'être lâché dans la nature. Raffaele D'Ambrosio est le vice-président de Costa Croisière.
Vous faites des excursions avec Costa, ça c'est obligatoire, parce qu'on peut garantir l'application du protocole. Les guides sont testés avant les excursions. Les conducteurs des autocars sont testés.
Et attention, ça ne rigole pas. Des passagers qui n'avaient pas respecté les consignes n'ont pas été autorisés à remonter à bord. Mais dans le contexte actuel, toutes ces mesures draconiennes sont indispensables, selon les armateurs. La condition sine qua non pour réussir la reprise, c'est ça, disent-ils, où on est mort.
Reportage Étienne Baudu. Une pause et dans un instant, les papas vont pouponner pendant 28 jours désormais.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
C'est l'une des nouveautés de ce 1er juillet, le congé paternité porté à 28 jours, dont une semaine obligatoire à la naissance de l'enfant, entre en vigueur aujourd'hui. L'idée de permettre au père de tisser un lien avec le nouveau-né et de s'investir davantage dans la vie du foyer. D'où la question du jour sur RTL.fr. Est-ce une avancée suffisante ? Eh bien, vous allez y revenir avec les auditeurs au 3210 Pascal Pro.
S'il fallait un marqueur de nos sociétés, ce temps accordé aux nouveaux pères pour accompagner leur épouse ou leur compagne et découvrir leur enfant signe évidemment une époque. C'est très récent, vous l'avez dit. Le congé paternité en France est 2002. En Suède, les pères ont droit à 48 jours de congé. En Espagne, ce sont 16 semaines possibles pour le père, soit autant que la mère. En Allemagne, étonnamment, il n'existe pas de congé de paternité, mais un congé parental à partager entre les deux parents selon leur volonté. Mais, et c'est là que c'est le plus intéressant, je vais vous poser une ou deux questions. Aux États-Unis, est-ce que vous savez combien de temps dure le congé paternité?
Il doit être très court.
Il n'y en a pas.
Voilà.
Et est-ce que vous savez combien de temps dure le congé maternité aux États-Unis?
très court aussi.
Il n'y en a pas. D'accord. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Aux États-Unis, il n'existe ni congé paternité, ni congé maternité. La loi garantit seulement à une femme ou à un homme de s'absenter pour des raisons familiales jusqu'à 12 semaines non payées. Et de retrouver son poste à son retour. Donc aux États-Unis, t'as le droit de faire des enfants, t'as juste le droit de revenir au bout de 12 semaines, mais t'es pas payé. Donc c'est intéressant parce que chaque société... Au fond, bah, c'est un marqueur de chaque société que ce congé paternité.
Alors ici en France, jusqu'à présent, il ne comptait que 11 jours et il était pris par 7 pairs sur 10. Seulement 60% des salariés en CDD d'ailleurs. Mais certaines entreprises ont déjà mis en place un congé qui dépasse largement les 28 jours. C'est le cas de la société Kering, reportage Juliette G.
Damien, salarié chez Kering, a eu un petit garçon, Auguste, en novembre dernier. Dès la naissance, il a pu bénéficier de 14 semaines de congé paternité rémunéré à 100%.
Pour moi, c'était une période privilégiée de pouvoir passer autant de temps avec mon fils. Les premiers mois sont très importants et à la fois, c'était aussi un défi parce que j'ai dû m'occuper seul d'un bébé, j'avais pas forcément l'expérience.
Sans cette opportunité, Damien et son mari n'auraient eu que 2 semaines chacun avec leur enfant, la durée légale du congé paternité.
Ça aurait été plus compliqué pour notre organisation. On aurait dû prendre des congés ou du sans-solde. C'était vraiment pas du tout la même organisation.
L'entreprise a mis en place cette politique en janvier 2020. Elle permet de promouvoir l'égalité homme-femme au travail. Émilie Lanciojous est DRH chez Kering.
D'un point de vue de l'entreprise, c'était aussi un moyen d'éviter les biais à l'embauche. Et également les biais en cas de promotion, puisque finalement, qu'on soit homme ou femme aujourd'hui, on peut prendre ce congé prolongé pour l'accueil d'un premier enfant ou d'un enfant au sein de la famille.
Depuis un an et demi, 200 personnes sur les 38 000 salariés que compte l'entreprise ont pu en bénéficier.
La présidentielle top départ, la collecte de fonds pour les candidats commence dès aujourd'hui. Certains sont déjà en campagne, notamment chez les écologistes, Yannick Jadot, Éric Piolle. La socialiste Anne Hidalgo mobilise des élus locaux, sans parler à droite de Xavier Bertrand. Emmanuel Macron, lui, donne sa vision de la société dans une grande interview accordée au magazine Elle. Et il s'inquiète d'une racialisation, William Galibert.
Oui, je vois la société se racialiser progressivement, dit Emmanuel Macron. En clair, il décrit un pays où l'on se définit de plus en plus par sa couleur de peau ou par l'appartenance à une communauté. Je ne me reconnais pas dans un combat qui renvoie chacun à son identité ou son particularisme, explique le président. Que veut-il dire ? Que les inégalités en France ne sont pas juste une question de couleur de peau. Il ajoute, je pourrais vous présenter des jeunes hommes blancs qui s'appellent Kevin, qui habitent Amiens et qui ont aussi d'immenses difficultés pour trouver un job. Maintenant, Christelle, que faut-il tirer de ce cri d'alarme d'Emmanuel Macron sur la racialisation de la France ? D'abord, peut-être une forme d'aveu d'échec, une incapacité reconnue à ressouder le pays qu'il dirige depuis 4 ans. Et puis aussi sûrement le début d'un nouveau récit pour le chef de l'État. Comment retrouver de l'égalité, comment retrouver de l'unité nationale, ça sonne déjà fortement comme un projet pour une prochaine présidentielle.
Comme un parfum de campagne, merci William. Quelle voiture acheter aujourd'hui ? Les Français s'y perdent. Au mois de juin, les ventes de voitures neuves ont même baissé de 14%. Et ce ne sont pas les nouvelles règles sur les primes en faveur de l'électrique qui vont doper le marché, Christophe Bourreau.
Oui, pour preuve, Christelle s'est trouvée en concession ces dernières semaines pour pouvoir encore bénéficier de l'ancien bonus, plus généreux, 7 000 euros au lieu de 6 000 aujourd'hui. Résultat des ventes records pour l'électrique, atteignant même pour la première fois 10% de part de marché. Seulement, voilà, pour les professionnels, c'est un résultat en trompe-l'œil. Les mois à venir s'annoncent plus difficiles, car les aides vont continuer à diminuer, avec même un bon coup sur le capot pour les hybrides rechargeables. Car si elles conservent une aide de 1 000 euros, eh bien ce coup de pouce disparaîtra en janvier prochain.
Donc on ne peut pas tout miser sur l'électrique.
Oui, car le prix des électriques reste élevé. Hein. C'est plus de 30 000 euros quand même en moyenne pour une voiture neuve.
Très cher, hein.
Raison pour laquelle Renault choisit de relancer des voitures populaires comme la R5 et la 4L en version électrique, dont le prix ne devrait pas dépasser les 20 000 euros. Outre frein, les bornes de recharge, à peine 35 000 en France, dont d'ailleurs beaucoup sont hors service. On aurait donc tort d'enterrer les autres motorisations comme le 85 ou encore le GPL, dont les ventes ont été multipliées par 14 en à peine un an.
Christophe Bourreau a noté aussi parmi les autres changements de ce 1er juillet la revalorisation de l'allocation chômage de 0,6% et une hausse des tarifs réglementés du gaz de 10%. On le sentait venir depuis plusieurs semaines, cette fois c'est clair, Kylian Mbappé ne veut pas prolonger au PSG. Il reportait sa décision à l'après-Euro, il y est plus vite que prévu, et il restera à Paris jusqu'en juin 2022, mais pas plus, Philippe Sansfourche.
Oui, c'est en tout cas la situation à l'instant T. Kylian Mbappé s'est envolé pour la Sardaigne où il compte entamer ses 15 jours de vacances. Et il a signifié avant à son entraîneur Mauricio Pochettino, au directeur sportif Leonardo, qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat au terme des discussions entamées depuis plusieurs semaines avec le club. Pour autant, l'attaquant des Bleus et du PSG n'a pas prononcé le mot de départ, encore moins cité le nom d'un club avec lequel il souhaiterait s'engager. Dans les faits, c'est un nom qui peut encore vouloir dire oui. Depuis quelques jours, le président Nasser El Khelaïfi a pris le dossier en main. Il sait que les relations ne sont pas idylliques, c'est le moins qu'on puisse dire, avec le directeur sportif Leonardo. Le feuilleton est donc loin d'être terminé. Le PSG a encore des cartes en main. Proposition financière à la hausse, garantie sportive en recrutant sur le marché des transferts. À Doha, tout va être mis en œuvre pour inverser la tendance et conserver le principal actif de l'effectif parisien.
La spectatrice soupçonnée d'être à l'origine d'une chute massive dans le peloton du Tour de France samedi pour avoir brandi une pancarte est toujours en garde à vue ce matin à Landerneau, une femme de 30 ans qui vit dans le Nord Finistère. On espère qu'il n'y aura pas de chute aujourd'hui sur le Tour de France. Dans quelques secondes, Christophe Pacaud au départ de la 6e étape entre Tours et Châteauroux. RTL, chez vous.
RTL. Tour de France 2021. RTL, chez vous.
Christophe Pacaud.
Et on vous retrouve, Christophe. Bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour, Christelle. RTL, chez vous, en direct de Tours, au bord de la Loire, direction Châteauroux. Rencontre ce midi avec Marine L'Orphelin, Miss France 2013, devenue médecin. Le coup de cœur de Laurent Jalabert, l'histoire du Tour. RTL, chez vous, c'est parti.
Tour de France 2021.
RTL, chez vous.
Christophe Pacaud.
RTL chez vous, avec Marine L'Orphelin. Bonjour Marine.
Bonjour.
On est content de vous retrouver, vous, ici sur les routes du Tour de France. Ça rime avec beauté, avec charme, avec Miss France, le vélo.
Ben oui, le Tour de France, c'est un événement incontournable, très populaire aussi. Voilà, moi, je l'ai toujours connu, le Tour de France. Mon père était passionné de cyclisme, donc j'ai toujours regardé et ça me fait trop plaisir d'être sur les routes.
C'est bien que c'est vraiment un événement populaire, hein. C'est comme vos concours, c'est ça, c'est, tout le monde est là, en plus c'est gratuit.
Oui, il faut en profiter, là ça fait du bien, c'est vrai. Dans cette période, de retrouver un peu de vie, un peu de bonne humeur et vibrer avec les coureurs.
Vous n'êtes jamais venu remettre un maillot sur le Tour de France ?
Si, ça m'est arrivé à l'époque. Même j'ai mon premier souvenir sur le Tour de France, c'était en tant que Miss Saône-et-Loire, donc de mon département.
D'accord.
Et voilà, j'avais été très impressionnée du coup parce que je débutais dans cet univers.
Et puis à l'époque, il y avait le bisou et le bouquet. Maintenant, c'est crise sanitaire oblige.
Crise sanitaire oblige. Et puis bon, il y a eu des petites polémiques aussi par rapport aux belles et jeunes demoiselles qui remettaient les prix. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça très classe, très chic. Et c'est aussi le charme à la française. Donc,
mais depuis, on a mis des garçons aussi. Hein, on a mis des misters, quoi.
Ah bon ?
Ouais. Non, mais c'est vrai, sérieux.
Ben voilà, c'est pour l'égalité.
Vous n'avez pas vu sur le podium ? Marine L'Orphelin. Vous avez roulé ?
Avec toute la super team du coup d'invités de Mécénat Chirurgie Cardiaque. C'était franchement génial. Pas facile. Je me suis dépassée. Un petit moment dur, le public aussi nous a bien poussé, c'était vraiment chouette.
Merci Marine L'Orphelin et merci pour les enfants qu'on a bien besoin, ces enfants qu'on peut soigner, hein, on peut sauver avec un cœur tout neuf.
Merci beaucoup, bonne journée à vous.
Christophe Pacaud,
RTL, chez vous.
Le coup de cœur de Laurent Jalabert aujourd'hui dans RTL, chez vous. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Pogacar, merveilleux sur l'étape hier, mais celui qui nous a encore bien bluffé, c'est Mathieu Van Der Poel qui conserve son maillot jaune, magnifique maillot jaune pour 8 secondes.
Ouais, Van Der Poel, c'est un coureur multifonction. Hein. Il a été plusieurs fois champion du monde de cyclocross, il rêve de devenir champion olympique de VTT dans quelques semaines. Il découvre le Tour pour la première fois, il gagne une étape, il prend le maillot jaune. Sur un contre-la-montre, on ne savait pas vraiment ce qu'il pouvait faire, il ne les dispute jamais à fond parce que des classements généraux, c'est pas sa tasse de thé. Et pourtant, il a voulu défendre ce maillot jaune parce que c'est le Tour de France, c'est la plus belle course du monde et il s'est défendu avec brio. Il conserve 8 secondes d'avance sur Pogacar, c'était vraiment un très grand moment qu'il nous a offert hier.
Merci Laurent Jalabert, à tout à l'heure pour le club Jalabert.
À tout à l'heure.
18h30, 19h.
Christophe Pacaud,
RTL, chez vous.
Et à l'applaudimètre, juste derrière Julien Alaphilippe, c'est le maillot jaune flamboyant du petit-fils de Raymond Poulidor, Mathieu Van Der Poel, qui rallie visiblement tous les suffrages, ici, sur la ligne de départ. Christian Panvert.
C'est l'incarnation même, il reprend la suite, effectivement, de M. Poulidor.
Une réelle ressemblance, en plus. C'est le renouveau de grands champions. La solidité, le charisme, il a le même charisme qu'avait M. Poulidor.
Et je pense que son nom, Van Der Poel, il va être plus gros que celui de Poulidor à l'échelle de la planète.
Allez, Mathieu Van Der Poel.
Tour de France 2021.
RTL, chez vous.
Christophe Pacaud.
Avec notre spécialiste vélo dans RTL chez vous du Parisien aujourd'hui en France, Christophe Bérard. On arrive à Châteauroux, Châteauroux, Cavendish, belle histoire.
Ah bah une très belle histoire. Les deux dernières fois où le Tour est arrivé à Châteauroux, en 2008 et en 2011, à chaque fois, c'est Cavendish qui avait gagné. Donc là, on a très envie d'une troisième victoire d'affilée. Je ne sais pas, il y aura peut-être une rue Marc Cavendish bientôt dans la cité berrichonne. Et puis, Marc Cavendish, ce qui est incroyable chez lui, c'est l'image qu'il donne aujourd'hui. Souvenez-vous, il y a quelques années, il était arrogant. Le célèbre fucking French qu'il avait lancé à l'image pour les Français. Aujourd'hui, Cavendish, il est devenu d'une humanité incroyable. C'est Christian Prudhomme qui nous racontait hier encore, la dernière fois qu'il était venu sur le Tour, c'était en 2018. Et il arrive hors délai au pied du col de la Rosière. Il tient quand même à faire cette ascension pour rien, pour la gloire. Christian Prudhomme a tenu à assister à son arrivée 45 minutes après les premiers, juste pour le remercier. Il avait dit, Marc Cavendish, aujourd'hui, a respecté le Tour de France. Je crains qu'on ne le revoie plus. 3 ans après, on le revoit en position de vainqueur, peut-être. L'histoire est magnifique.
Pour une 32e victoire sur le Tour, à deux longueurs d'Eddy Merckx. Qui c'est, Christophe Bérard ? Bonne journée.
Merci, merci à vous, merci à tous.
Christophe Pacaud,
RTL, chez vous.
Fenêtre sur Tour, et Christian Laborde revient sur cette courte étape.
Les coureurs quittent Tours et rejoignent Châteauroux, où les sprinteurs, à l'instar de Marc Cavendish, ont l'habitude de gagner. Encore un sprint, encore un peloton roulant en dedans. On comprend que le peloton ait envie aujourd'hui de ralentir, de regarder. De regarder quoi ? De regarder, émerveillé, les châteaux du Val-de-Loire, la France et la Renaissance. On comprend. Il y a à Châteauroux, place de la Victoire et des Alliés, un château qui n'est pas n'importe quel château, un château qui pourrait bien changer le scénario de la course. Le château Raoul. Car qui dit Raoul, dit Volfoni. Raoul Volfoni, personnage joué par Bernard Blier dans Les Tontons Flingueurs, le film de Georges Lautner. Et Raoul Volfoni, le bâton de dynamite à la main, parle ainsi. Je vais lui faire une ordonnance et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je ne correctionne plus, je dynamite, je disperse, je ventile. Aujourd'hui, entre Tours et Châteauroux, nous attendons qu'un coureur, se prenant pour Raoul Volfoni ou pour Thierry Marie, fasse tout sauter et disperse le peloton façon puzzle.
Tour de France 2021.
RTL chez vous.
La course à suivre toutes les demi-heures sur RTL avec Christian Olivier Morad Jabari sur la moto et Christian Panvert. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL. Bonne route et surtout, bon petit tour.
Un petit tour, un petit jour, entre tes bras. Cours, un petit tour, au petit jour, entre tes draps.
RTL Midi.
L'acropole d'Athènes fermée cet après-midi à cause de la canicule. Ça fait 10 jours que la chaleur est étouffante en Grèce et le mercure grimpe dans certaines régions jusqu'à 44 degrés. Ici, Peggy Broche, on respire.
Et oui, Christelle, surtout au nord où c'était frais, même jusqu'à maintenant, les températures remontent enfin. On est encore un peu juste par endroit, 19 à Nancy, jusqu'à 32 aujourd'hui à Nîmes, 20 à Lille, Cherbourg, 23 à Paris, 24 à Rennes et Tours, 26 à Lyon, Limoges et Bordeaux, 28 à Auch, 31 à Marseille, 32 à Nîmes. Côté ciel, beaucoup plus calme et plus lumineux au nord que ce qu'on a connu. Le ciel est partagé entre nuages et éclaircies et quelques rares averses localisées. Les nuages sont plus nombreux, c'est vrai, sur l'extrême nord-est. Et puis dans le sud, c'est du beau temps, un ciel un peu plus variable dans le sud-ouest. Un petit risque d'averses orageuses sur le relief des Pyrénées et très ensoleillé dans le sud-est et la Corse avec un peu de vent.
Merci Peggy, les 13h sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro, le congé paternité qui passe aujourd'hui à 28 jours en France, dont une semaine obligatoire. Nous sommes avec Nicolas, qui est chef d'entreprise à Bourg-en-Bresse. Est-ce que c'est une avancée ?
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Non, aucun intérêt.
Aucun intérêt ?
Aucun. Ah,
vous êtes sympa, vous, c'est bien. Vous êtes un homme d'aujourd'hui. Christelle, le rappel des titres.
Perquisition en ce moment au ministère de la Justice. Des gendarmes enquêtent à la demande des magistrats sur Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, soupçonné de s'être rendu coupable de conflit d'intérêts. L'entourage du ministre affirme que ce dernier est serein face à cette procédure. Un ultimatum inédit. Le Conseil d'État donne 9 mois à l'État pour prendre des mesures supplémentaires pour le climat afin d'atteindre l'objectif de baisse de 40% des gaz à effet de serre d'ici 2030. Il avait été saisi par la commune de Grande-Synthe, dans le Nord, qui s'estime menacée par la montée du niveau de la mer. Les inquiétudes de l'Organisation mondiale de la santé face au Covid, les cas ont recommencé à augmenter en Europe après 10 semaines de recul. Le gouvernement pourrait annoncer une vaccination obligatoire des soignants avant le mois de septembre. Les retrouvailles des princes William et Harry, ils inaugurent aujourd'hui une statue en hommage à leur mère, Lady Diana, dans les jardins du palais de Kensington. Lady Di est décédée en 97 d'un accident de la route. Elle aurait eu 60 ans aujourd'hui.